Plusieurs des questions qui restaient de la boîte tournaient autour de l'application immédiate et moderne. Est-ce qu'un chrétien peut ou doit participer à l'activité des partis, des syndicats, etc. Je le note pour répondre que je ne crois pas qu'on soit prêt à sauter si facilement dans le concret sans avoir renouvelé notre vision de toutes les dimensions de ce qu'il y a à trouver dans le Nouveau Testament et aussi de façon secondaire des leçons de l'histoire de la pensée chrétienne sur ces sujets. Donc je ne répondrai pas si un chrétien peut ou doit participer dans ces structures. La réponse de toute façon serait parfois oui et parfois non, selon les possibilités. Et la façon, les critères pour mesurer ces possibilités exigeraient une toute autre approche, une toute autre documentation que ce que nous pouvons avoir dans le temps dont nous disposons. Je trouve plus important d'accentuer la nécessité de refaire notre enracinement dans le message biblique et même de résister à une certaine poussée vers un saut immédiat dans la pratique avant d'avoir clarifié où nous avons posé nos pieds avant de sauter. Il est une des paradoxes, une des dimensions caractéristiques et paradoxales de certains milieux évangéliques, que tout en croyant sincèrement que c'est la Bible qui nous parle, qui nous instruit, nous voulons très rapidement mesurer la Bible pour sa capacité de répondre oui ou non aux questions que nous posons, au lieu de permettre à la Bible de nous dire aussi parfois quelles questions elle veut que nous lui posions et quelles sont les questions prioritaires qu'elle est préoccupée de traiter en premier lieu. Et ce n'est pas toujours ma problématique quotidienne de faire ceci ou ne pas faire cela qui est le point où j'ai le plus besoin d'être instruit. Mais maintenant, passons à la nouvelle matière de la troisième feuille, qui est vraiment un autre chapitre, un changement de sujet, très en rapport avec la problématique sociale, mais depuis une orientation toute différente que la discussion du caractère politique du ministère et de l'enseignement de Jésus. Nous parlons maintenant de la composition sociale de la première Église, et surtout de l'Église que nous voyons dans l'œuvre et dans la pensée de l'apôtre Paul, mais pas seulement chez lui. Si nous avions eu l'occasion de rechercher derrière les questions sur le troisième feuille, vous auriez aussi pour aujourd'hui une possibilité de travail en groupe, mais nous avons constaté qu'avec un groupe de cette taille, ce n'est pas en essayant de faire une forme de débat qu'on arrive vraiment à créer l'attitude ou l'atmosphère d'un tout petit cercle. Alors, ce sera plutôt présentation de mon côté cette fois. Nous avons référence dans ces quatre questions très brèves à quatre textes différents, quatre situations différentes, mais où la même chose est toujours en jeu. Quelle est cette même chose ? Commençons avec le texte qui est peut-être le plus profond en pensée, celui d'Éphésiens, où l'apôtre commence le troisième chapitre en disant que lui a un secret, un mystère lui a été particulièrement confié par révélation, verset 3. Donc, un élément de message que Paul prétend avoir reçu même au-delà de ce que tous les apôtres savaient, pour l'avoir reçu dans le ministère terrestre de Jésus, ou depuis la Pentecôte, par d'autres moyens, de conduite par le Saint-Esprit, quel est ce mystère ou secret? Tout d'abord, il faut écarter de notre usage l'usage moderne d'un mystère qui signifie simplement quelque chose où nous ne savons pas la réponse à une question. En anglais, le mot mystère veut dire un roman de détective où on ne sait pas jusqu'à la dernière page qui était l'assassin. Il faut écarter, et en rapport avec la matière d'hier soir, c'est encore peut-être plus important, l'idée de mystère comme des secrets de culte, ou de rite, ou de formule occulte qui se révèle seulement à des initiés. Il y avait, à l'époque du Nouveau Testament, des religions qu'on appelle des mystères, où on gardait pour soi et révélait sous certaines conditions certaines formules. Et ça existe naturellement encore de notre temps. Ce n'est pas de ça qu'il est parlé. Nos mystères avaient aussi un sens profane, technique. C'était un mystère, par exemple, quand un général, un stratège militaire, avait dans sa tête, ou même dans ses dossiers, un plan de bataille. Sachant que si l'ennemi attaquait ainsi, notre riposte sera celui-là. Ce plan de bataille était tenu confidentiel, juste à la bataille. Mais une fois arrivé le jour du conflit, tout le monde le voyait, c'était manifeste. Et c'est dans ce sens-là que l'apôtre Paul parle d'un plan que Dieu avait toujours, mais qu'on ne comprenait pas, qu'il n'avait pas été mis à l'œuvre, qu'il n'avait pas été manifesté. Et maintenant, c'est moi, Paul, à qui il a été donné d'expliquer ça, pas plus que ça, de le faire, de l'accomplir. Et quel est ce plan? C'est que dans la nouvelle dispensation, la nouvelle époque, le Nouveau Testament, verset 6, que les païens sont admis au même héritage, membres du même corps, bénéficiaires de la même promesse, dans le Christ Jésus par le moyen de l'Évangile. Ça nous est tellement connu que nous avons du mal à nous rendre compte combien neuf, combien frappant, et pour certains, combien inacceptable était l'idée que la connaissance de Dieu, qui était la propriété d'un certain peuple, réservée à eux, et que les autres ne voulaient pas ou ne pouvaient recevoir que chez eux, la connaissance de Dieu, de l'Ancienne Alliance, de la loi, des prophéties, cette connaissance est maintenant pour tout le monde. Et les enfants de Juifs ne sont plus privilégiés parce que Dieu même, dans sa stratégie autrefois cachée, a fait un virage, a ouvert un nouveau chapitre, a tourné une page, et maintenant ce peuple qui était défini biologiquement, socialement, les enfants d'Abraham dans le sens tout normal, social et biologique, tout d'un coup, cette unité sociale est explosée, est ouverte pour intégrer toutes sortes de gens. La phrase que l'apôtre utilise pour ça, une des phrases, dans le chapitre précédent, parce qu'il parle déjà de cette matière avant le chapitre 3, c'est le terme « homme nouveau ». Nous le voyons, commençons à lire à partir, encore plus haut. On devrait lire tout le chapitre deuxième, mais commençons seulement avec le verset 12. Rappelez-vous qu'en ce temps-là, vous étiez sans Christ. Ça veut dire vous qui? Les païens, pas les juifs. Exclus de la cité d'Israël, étrangers aux alliances de la promesse, n'ayant ni espérance ni Dieu en ce monde. C'est adressé à des croyants de passer hors du judaïsme. des païens, des gentils. Or, voici qu'à présent, dans le Christ, Jésus, vous qui, jadis, étiez loin, vous êtes devenus proches, grâce au sang du Christ. Nous faisons souvent, c'est compréhensible, une application individualisée d'un texte comme ça, en disant que ça s'adresse à chaque croyant, parce qu'avant, il était incroyant, il était rebelle, il était pécheur. C'est vrai aussi, mais ce n'est pas le sujet du texte. Et un des grands défis dans l'étude biblique en communauté, c'est de séparer les idées qui sont vraies des idées qui sont dans le texte. Parce qu'il y a beaucoup de bonnes idées qui sont vraies par ailleurs et attestées par ailleurs, mais qui ne sont pas la matière d'un certain texte. Et l'apôtre s'adresse ici collectivement aux chrétiens de passé païen, en leur disant, vous étiez loin, et maintenant vous, pluriel, êtes proche. Naturellement, ça veut dire que chaque individu était aussi avant, loin et maintenant proche. Mais ce n'est pas une description de la conversion individuelle dont parle ce texte. C'est la description de la création d'un nouveau peuple, constitué de ces deux classes de gens. Car c'est lui qui est notre paix, lui qui des deux n'a fait qu'un peuple, détruisant la barrière qui les séparait. Il a aussi détruit la barrière qui nous sépare tous, nous séparer tous, un par un, de Dieu. Mais ici, il s'agit de la barrière qui sépare deux classes de gens, deux groupes sociaux. Supprimant en sa chair la haine, cette loi des préceptes avec ses ordonnances pour créer en sa personne les deux en un seul homme nouveau. Faire la paix, les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul corps, par la croix. En sa personne, il a tué la haine, alors il est venu proclamer la paix. Paix pour vous qui étiez loin, païens, paix pour ceux qui étaient proches, les juifs. Car lui, nous avons en effet tous deux, en un seul esprit, accès auprès du Père. Mais revenons au terme homme nouveau. Nous parlons souvent de l'homme nouveau comme l'individu croyant, régénéré, qui n'est plus ce qu'il était, par l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est vrai. Mais encore une fois, c'est une vérité qui n'est pas le sujet de ce texte. Parce que dans le grec, très régulièrement, quand le mot homme, anthropos, paraît sans article, ça ne veut pas dire un homme, un être humain. Ça veut dire l'humanité. Ce qui est créé ici est une humanité nouvelle. Une humanité composée de deux classes de gens qui autrefois étaient ennemis et étrangers les uns aux autres. Quelle est la critique, deuxième question sur le plan, contre laquelle l'apôtre se défend dans les chapitres 4 et 5 de la deuxième lettre aux Corinthiens? On pourrait même dire qu'il se défend dans toute l'épître. Mais les passages qui nous intéressent sont surtout ceux-là, les chapitres 4 et 5. On met en doute son titre d'apôtre, on met en doute sa façon justement de proclamer cette nouvelle unité entre ces deux classes de croyants. Il y a des gens, des fois ils les appellent grecs, mais ça ne veut pas dire des gens de nationalité grecque, ça veut dire des gens de civilisation grécophone, helléniste, bien représentés par les adeptes d'Apollos, qui voudraient que la foi chrétienne devienne une religion ouverte, cosmopolite, intelligente, comme les autres, et qui trouve stupide de rester avec ses racines dans le judaïsme. Et auprès de ces gens-là, Paul insiste, la Bible des Juifs, c'est notre Bible, le Christ que nous proclamons, c'est le Messie des Juifs. Si nous ne savons pas ses racines et cette histoire, ce n'est pas la foi en Jésus-Christ qui nous unit. Il insiste même au point qu'il y a quelques bribes d'évidence pour indiquer que les chrétiens de langue grecque devaient apprendre quelques prières au moins en hébreu, ou plutôt en araméen qui était le patois hébreu de l'époque. Parce qu'il peut leur écrire Maranatha, Abba, des termes araméens, supposons que ses lecteurs à Corinthe ou à Rome sauront de quoi il écrit. Donc il insistait que les chrétiens cosmopolites, hellénistes, grecophones, apprennent à s'enraciner dans l'Ancien Testament et dans le témoignage juif. Mais en même temps, les chrétiens, les croyants d'origine juive, lui en voulaient de son ouverture envers ces autres gens, parce qu'il ne les obligeait pas à devenir juifs avant d'être chrétiens. Il n'imposait pas sur eux toute la loi. Et pourtant, il prétendait respecter la loi. Mais il permettait dans les églises de la liberté pour les questions de forme. Alors, de part et d'autre, on met en doute son autorité d'apôtre. Et c'est là, c'est sur cela qu'il est toujours en train de se défendre, même quand ce n'est pas littéralement de cela qu'il parle. Et un exemple, nous nous limitons à un texte, mais un texte très profond et assez bien connu, mais que nous ne lisons pas toujours avec son sens plein. C'est dans le chapitre 5, 2 Corinthiens 5, milieu du chapitre. L'amour du Christ nous presse, nous contraint à la pensée que si un seul est mort pour tous, alors tous sont morts. Il est mort pour tous afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Aussi ne connaissons-nous plus désormais personne selon la chair. Même si nous avons connu le Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus ainsi à présent. Qu'est-ce que ça veut dire, connaître quelqu'un selon la chair? Il y a une variété de sens dans tous ces mots, naturellement, mais dans ce passage, il y a pas mal d'exégètes qui ont prétendu que, particulièrement parce que l'apôtre protège et défend ici son titre d'apôtre, quand il parle de connaître Christ selon la chair, ça veut dire avoir connu Jésus en Palestine avant sa passion. Et ce ne serait pas bête. Parce que nous savons depuis le livre des Actes que la définition d'un apôtre, c'est quelqu'un qui a fait ça, qui a connu Jésus avant sa crucifixion, pour pouvoir dire après la résurrection, comme témoin autorisé, oui, c'est lui qui a ressuscité. La définition d'un apôtre, normalement, c'est quelqu'un qui peut dire ça. J'ai connu Jésus avant, il est mort, je l'ai vu après, c'est lui, je suis un témoin. Alors Paul se défend, je n'ai pas connu Jésus comme ça. Ce serait logique. Et il y a beaucoup d'interprètes qui voient ça dans ce texte, et même qui en font un grand mérite, et qui le mettent en rapport même avec les débats théologiques autour du Jésus de l'histoire. On n'a pas besoin de s'occuper du Jésus de l'histoire parce que ce n'est pas celui-là qui compte, ça serait le Jésus qu'on connaît selon la chair. Encore une fois, c'est une idée qui a son poids, mais qui n'est pas dans ce texte, parce que Paul avait commencé par dire qu'il ne connaît personne selon la chair, et les autres sont encore tous là. Alors, il ne peut pas être en train de dire qu'il ne connaît pas les gens dans leur existence historique humaine, dans leur chair et os. Non, c'est tout autre chose. Et il suffit de regarder une concordance et chercher la phrase « selon la chair », « fils d'Abraham selon la chair »,« fils de David selon la chair »,« mes frères selon la chair », et on se rend compte que ça veut dire la descendance biologique ou la place sociale de quelqu'un. Sans nommer les groupes de gens, Paul est en train de dire ici, je ne demande plus si quelqu'un est juif et grec ou grec, s'il est de mon bord ou de l'autre bord. Je ne demande plus si c'est un droitiste ou un gauchiste. Je ne demande plus quelle est la classe qui avait donné à cette personne son caractère, parce que, en Christ, je ne pose plus cette question. Une fois, je voyais en Jésus un mauvais juif, un révolutionnaire, quelqu'un qui enseignait aux gens à ne pas garder la loi. Maintenant, croyant en lui comme Messie, je ne le vois plus selon ce qu'il représentait comme classe type rôle social. Je vois en lui maintenant, Seigneur, mort pour tous, qui m'entraîne dans sa suite. Mais s'il est mort pour tous, les différences entre les gens sont mortes. C'est la portée, c'est le lien entre le verset 15 et le verset 16. C'est parce qu'il est mort pour tous, il est mort à la place de tous. Alors, si je voyais avant ce frère-là comme enfermé dans la boîte, dans le casier juif, et je voyais cet autre frère enfermé dans le casier helléniste, païen, les casiers sont morts. Cette définition des gens est morte. Et maintenant, je les vois tous dans cette nouvelle humanité où il n'y a plus de distinction. Vous connaissez le fameux texte, il n'y a plus esclave ni libre, homme ni femme, civilisé ni barbare. Il ne veut pas dire que ces différences n'existent plus, mais qu'il n'en tient plus compte pour ce qui est de la valeur humaine de ces gens ou de leur place dans l'Église. Donc, encore une fois, l'apôtre, dans ce texte comme dans l'autre, explique son ministère apostolique par le fait que la mort de Christ a balayé les différences entre les classes de gens. Nous avons parlé mercredi de la croix comme jetant une lumière sur notre obéissance, sur la morale, sur l'éthique. Et beaucoup de dimensions différentes de ce rapport entre la croix de Christ et notre obéissance et notre témoignage. Ici, nous découvrons un autre élément du témoignage de la croix qui est très peu exploité et interprété dans nos milieux d'habitude. La croix fait quelque chose aux différences entre les gens. Ce n'est pas seulement que la croix permet ma réconciliation avec Dieu. Ce n'est pas seulement que la croix me donne une autre façon de vivre, parce que je prends modèle en Jésus et son état de serviteur, mais la croix a aussi enlevé la barrière entre les gens comme moi et les gens comme eux, pour en faire un peu. Je ne sais pas combien de fois vous avez entendu des messages sur cette portée-là de la croix. La croix comme la destruction des barrières entre deux classes de gens. Maintenant, admettons un problème dans l'interprétation. On peut dire que ces messages se limitent au Nouveau Testament. Il y avait les Juifs, littéralement, de cette époque. Quelques-uns qui étaient devenus croyants, le noyau de l'Église, et puis les non-juifs à cette époque. Et il fallait que l'Évangile fasse une fois le pont, sortir des limites du judaïsme et de la terre de Palestine pour devenir une religion universelle, mondiale. Mais une fois que c'est fait, alors c'est fini. Et on peut laisser les Juifs derrière. Vous connaissez peut-être quelque chose, on devrait connaître beaucoup plus de l'histoire misérable de l'antisémitisme chrétien, mais c'est normal si on croit qu'on peut laisser derrière cette transition, on l'a fait une fois, puis fini. Et maintenant, nous avons une religion mondiale qui n'a plus besoin de s'occuper de ce rapport entre les deux peuples, puisqu'on a fait le pont. C'est l'idée majoritaire, surtout depuis Constantin. On laisse derrière cette question de deux sortes de gens, parce que maintenant, chrétien, c'est notre type. Et pendant 1000 ans, le mot chrétien voulait dire européen. Ça, c'est une façon de le voir, que cette unité juive-grecque est une chose unique pour le Nouveau Testament. Et c'est déjà une affirmation importante et qui nous impose la Bible. Mais si nous voulons vraiment vivre dans la mentalité du Nouveau Testament et pas seulement le prendre comme histoire autorisée des œuvres de Dieu, c'est ma conviction, mais je vous la soumette seulement pour tester et pour mettre en question que ce phénomène de la croix qui renverse les barrières doit se répéter dans la vie de chacun et dans la vie de chaque communauté. Si nous voulons apprendre toute cette dimension de la libération que l'apôtre même a trouvée quand il a commencé à croire à celui qui avant il persécutait. C'est-à-dire que l'idée juive ne décrit pas seulement des personnes qui sont textuellement nées dans le judaïsme et grecques textuellement, les hellénistes du 1er siècle, mais que nous avons là deux types de gens qui existent toujours dans le monde. D'une part, il y a des gens qui connaissent la révélation, qui sont nés et qui ont grandi et ont été formés dans une culture croyante, dans des familles ordonnées, entourées d'une piété au moins en bonne partie véritable et authentique, qui sont donc le produit d'une culture dominée ou guidée par la révélation et la connaissance de Dieu. Et puis il y a les autres. Les gens qui n'ont pas eu d'éducation religieuse, qui n'ont pas eu un milieu de famille croyant qu'il est formé, ou qui ont simplement suivi le cours, s'il y avait de la religion de tout le monde, la religion commune, les pratiques de tout le monde, sans une décision, sans une idée d'un Dieu qui parle, qui révèle sa volonté, qui rend les gens capables de la connaître et de la suivre. Je ne prétends pas que c'est une discussion close, mais je soumets comme ce qui me paraît être le message qui n'est pas périmé du Nouveau Testament, que ce défi-là est toujours notre défi si nous voulons être une église vivante et une église missionnaire. Nous avons toujours à réunir dans un même corps des gens qui apportent une formation religieuse profonde et solide et saine, pas parfaite, mais avec une certaine valeur historique réelle, et des autres qui sont marqués négativement par l'absence de cette sorte de culture croyante. Et comment est-ce qu'on va les combiner? Une façon, c'est de dire que tous ceux qui viennent du dehors doivent se faire juifs aussi. C'est-à-dire qu'ils doivent accepter le style du ghetto, ils doivent apprendre nos cantiques, nos mœurs, nos scrupules, ils doivent être les assimilés à notre culture croyante que nous avons héritée de nos pères croyants. Il y a d'autres qui disent non, il faut que le petit groupe disparaisse, s'ouvre pour le monde, meure pour que le reste vive, il faut que la tradition soit semée au vent, et pour qu'on trouve dans la marche du grand monde qui nous entoure les traces de l'œuvre de Dieu pour tout le monde. C'est encore une fois les mêmes modèles qu'il y a 2000 ans. Et l'apôtre dirait, je prétends, qui ne font ni l'un ni l'autre. Il faut que ceux qui viennent de dehors apprennent à apprécier cet héritage, mais sans être enfermés dedans, sans devenir des prosélytes, sans liberté. Mais, plus grave, il faut que ceux qui sont les gardiens de l'héritage du ghetto, de la fidélité, de la fidélité véritable et réelle, apprennent à intégrer dans leur mouvement ceux qui n'ont pas la préparation, ceux qui ne connaissent pas le patois du Canaan, ceux qui ne comprennent pas les scrupules et le style de vie qui est tellement plein de sens et tellement évident pour ceux qui ont cette formation. Et l'œuvre de Christ dans la création d'une communauté est le fait que toujours à nouveau, il nous donne la capacité de renverser ces barrières culturelles, ces barrières de style de vie qui séparent. Est-ce que vous permettez une approximation, une traduction très libérale et osée, qui sépare les chrétiens de tradition des petites églises évangéliques, tout le reste des Français? La discussion que vous aviez hier après-midi, si j'ai bien entendu. C'est une discussion entre les Juifs et les Grecs, entre une ouverture qui risque d'être sans frein, et de se rendre au courant de la société, et une fermeture qui serait tellement fidèle qu'il n'aurait pas de message. Et l'apôtre ne choisit pas entre ces deux. Et il les mêle ou il les intègre l'un dans l'autre, pas parce qu'il est stratège ou sociologue, ou parce qu'il est intelligent dans les techniques de rapprochement de l'intégration culturelle, mais parce que Christ est mort. C'est la croix, c'est pas la sagesse sociologique, qui rend Paul capable de dire aux Grecs, Abraham est ton père, et de dire aux Juifs, le Grec est ton frère. Maintenant, si avec ce problème en vue, vous relisez le livre des Actes, c'était la quatrième question, on découvre, beaucoup plus que ce qu'on avait noté, que ce qui est en jeu est très souvent cette même problématique. Si nous ne sommes pas avertis, nous lisons le livre des Actes simplement comme une histoire de progression, et c'est encourageant, ça grandit, et progressivement on voit d'autres gens se joindre, on voit les mouvements, on peut faire des cartes, des voyages des apôtres, on peut faire des listes des nouvelles personnes et des nouveaux lieux, mais on ne voit pas toujours l'épaisseur ou la densité de ce qui est en train de se passer socialement. Mais si vous posez la question que je viens de poser, on se rend compte qu'il y a des véritables luttes dans cette première église entre les gens qui veulent rester à la maison culturellement, au temple et dans la synagogue, et qui, même en faisant une œuvre missionnaire importante, veulent le faire à l'intérieur des synagogues et dans la fidélité à toute la culture juive. Et puis il y a d'autres qui veulent craquer ces limites et laisser le ghetto entièrement et parler un bon grec. Il paraît que Apollos était un véritable orateur, rhétoricien, et savoir faire la concurrence avec les sagesses du monde sur le même plan que les autres, sans traîner derrière soi toute cette histoire sectaire, orientale. Dans une réunion il y a quelques jours, quelqu'un disait bédouin, de judaïsme palestinien de cette époque. Entre les deux, l'apôtre ne dit pas simplement je suis modérateur, je ne vais ni trop loin d'un côté ni de l'autre, j'essaie de ne pas perdre mon équilibre. C'était pas de l'équilibre qu'il s'agit, c'est de proclamation. Ce n'est pas qu'on arrive à tenir ensemble deux éléments très difficilement conciliables par la sagesse par une manipulation à droite. Non, c'est qu'il faut proclamer, parce que Christ est mort, le peuple de Dieu est ouvert aux autres, et parce que Christ a invité les autres dans le peuple de Dieu, ils sont fils d'Abraham, ils apprennent les psaumes. Ils apprennent l'histoire des patriarches et des prophètes comme leur histoire. Ils ne sont plus des gens sans histoire. Ils adoptent l'histoire d'Abraham comme leur histoire. Permettez encore une fois une parabole. J'étais dans une réunion d'étudiants en Amérique une fois. C'est seulement une illustration parce que la moitié de ce que ça dit n'est même pas juste. Mais celui qui parlait était un noir américain, très grand et très gros et très noir. Et son parler était de sa culture. Il était en train de parler de la nécessité de s'occuper du monde d'une façon plus responsable et plus prophétique et plus non-conformiste. Et pour bien expliquer, puisqu'il s'agissait d'une réunion dénominationnelle, il parlait de nos pères anabaptistes. Un noir qui a des pères anabaptistes. Anabaptiste, c'est le vieux nom pour les Mennonites. Mennonite, c'est... il y a une dizaine par là, il faut se lever.
Avez-vous comme ça, vous verrez, vous la poserez la question. C'est trop long. C'est toute une vague d'histoire.
Je vous demande pardon. Non, il s'agit d'un mouvement de rénovation radicale, de discipulat, de suivre Jésus d'une façon radicale dans le 16e siècle. Et ce n'est pas important de savoir beaucoup sur exactement ce mouvement du 16e siècle, mais il est important d'avoir l'idée qu'un croyant noir, dont le grand-père était esclave, et dont les arrière-arrière-grands-pères étaient nés en Afrique, adopte librement l'histoire d'une communauté qu'il a accueillie et qui donnait un sens à sa vie qu'elle n'avait pas avant. C'était ça qui arrivait quand un Grec à Athènes ou à Corinthe disait « Abraham est mon père ». Et c'est ça qui arrive quand aujourd'hui un Français sans racines religieuses, sans savoir qui était Darby ou Spurgeon ou les autres, ou Vinet, ou les autres grands évangéliques du siècle passé, devient élément d'un mouvement d'études bibliques et de témoignages et de ministères qui n'était pas celui de ses pères, mais adopte comme ses pères ce mouvement. C'est une traduction moderne peut-être trop à la page pour rendre tout ce qu'il y aurait à voir, mais rendons-nous compte de tout ce qui serait changé si les différences sociales, les différences de catégorie culturelle, de classe aussi, de langue aussi, surtout dans les pays où il y a des problèmes de langue, par la migration ou par le chevauchement des cultures, si on voyait comme une partie de l'œuvre de Christ qu'il renverse les barrières entre les catégories de gens, pas dans le monde entier, mais dans le peuple, de ceux qui, en Christ, voient qu'ils sont morts, qu'un est mort pour tous, alors tous sont sur le même plan, morts ensemble, et ils vivent pour tous, alors tous vivent sur le même plan, ensemble, avec la même valeur, la même dignité, alors tous sont dans la même histoire. Et ce qui nous séparait dans nos styles, dans notre formation, et surtout le fait que mon grand-père était croyant, le tien ne l'était pas, cette différence profonde est relativisée, pas seulement ça, le fait que cette différence est relativisée est ce que nous célébrons, ce que nous proclamons. C'est notre message, que nous sommes réconciliés avec les gens différents. Et cette unité-là ne se manipule pas, ne se crée pas artificiellement. On ne peut pas faire ça en soignant habilement les mots d'un poster ou l'organisation d'un petit groupe ou les statuts ou les termes d'un règlement intérieur. On ne peut le faire que si on est vraiment, si on vit dans la mort de Christ ou si on meurt dans la vie de Christ. Pour que ces choses qui étaient tellement importantes pour définir la dignité, le respect que j'ai pour moi-même comme étant fils et petit-fils de tel, produit de telle sorte de milieu et de culture, pour que cette dignité-là soit lâchée, pour pouvoir affirmer la dignité de l'autre qui n'avait pas ça, qui était plus étroit que moi ou plus large que moi, qui a vécu dans l'anomie, dans l'ignorance, dans la confusion, dans la rue, comme véritablement uni à moi dans ce nouveau corps. Je soupçonne, puisque c'était le cas pour moi-même, qu'avant de découvrir ce message qui est pourtant partout dans le Nouveau Testament, vous n'avez pas souvent entendu parler que l'effet de la croix de Christ est de créer une unité dans laquelle je ne demande plus, si je demande. Mais je ne suis plus arrêté par le fait que mon prochain dans l'Église est d'une autre culture. Je m'en réjouis. Je la célèbre. Pas parce que j'ai tout à fait le goût pour sa musique ou pour ses mœurs. Peut-être que je ne le comprends toujours pas. Mais je me réjouis d'être dans un même corps avec lui. Même si je n'aime pas. Je soupçonne qu'il y avait des Juifs qui ne se sont jamais habitués, des mœurs, des Grecs dans leur communauté, pour les partager, pour connaître les mêmes choses. Mais ils se réjouissaient d'être dans le même corps. Ils s'arrangeaient, se disciplinaient pour intérioriser cette ouverture envers les autres. Ils n'étaient pas tous aussi réussis comme exemple de cette nouvelle vie que Paul lui-même, mais c'est lui-même autorisé pour nous le montrer. Je fais référence à l'Apocalypse 5 comme un autre texte qui dit la même chose dans un langage fort différent, mais naturellement nous ne pouvons pas nous retenir maintenant. Alors, laissons-nous le ainsi. Devant cette invitation à voir encore une autre dimension. Prions pour terminer. Notre Père, nous parlons peu, ensemble, souvent, de ce qui nous définit culturellement, de notre famille, de notre classe, de notre formation, de nos coutumes. Nous sommes très conscients de toutes ces dimensions, mais nous n'avons pas l'habitude d'en parler dans la lumière de la foi, parce que nous n'avons pas souvent vu qu'il s'agissait de la foi. Ou bien nous avons eu honte de la façon dont on en parlait, au nom de la foi, chez les uns ou chez les autres, pour être étroit ou pour être large, d'une façon qui ne traduisait pas ton amour. Nous te bénissons parce que tu ne nous laisses pas seuls devant les défis de cet ordre. Tu ne nous laisses pas à essayer de résoudre les problèmes de forme culturelle uniquement par notre intelligence, notre sagesse de politique ou de négociation, de compromis. Mais tu nous donnes un message qui parle de cela. Tu nous dis que cette même croix qui a parlé à la question de notre péché et qui a parlé à la question de notre rapport avec l'ennemi et avec l'opprimé parle aussi à la question de notre rapport avec la culture de l'autre. Nous qui avons reçu dans la famille et dans l'histoire de notre quartier, notre village, notre clan, notre école, le privilège d'une connaissance et d'un héritage fondé dans les promesses et la révélation, donne-nous la même ouverture que tu as donnée à cet apôtre pour proclamer ton message dans le langage des autres et pour les englober dans la communauté que nous représentons. Et pour nous, ceux parmi nous et cette partie de nous-mêmes formée par le grand monde, par les courants culturels, par les confusions de toutes sortes de la vie moderne, donne-nous la grâce et l'ouverture, l'imagination d'adopter Abraham et les pères des traditions évangéliques, du message de l'évangile dans le passé et ses formes d'obéissance, comme notre histoire aussi, de percevoir que à travers cette histoire qui n'est pas la nôtre, tu œuvrais, tu agissais, tu révélais, tu conduisais pour amener jusqu'à nous un message qui peut donner une forme à notre vie dans son anomie, sa confusion, son manque d'orientation et de guide. Merci parce que tu nous donnes, même dans ce camp et dans notre activité quotidienne, dans le sein du mouvement universitaire, des occasions de réaliser cette promesse et de nous laisser entraîner par la parole de la croix, dans la réalisation de cette intention que tu as proclamée dans ton Fils. Libère-nous véritablement pour que nous puissions voir en chacun, non pas ce qui est, ce qu'elle est, ce qu'ils sont, selon la chair, mais ce qu'ils sont et peuvent être dans la réconciliation de la nouvelle humanité. Sois loué pour cette promesse et pour ce défi en son nom.